philosophie de l'activité artistique par le père Philippe à Saint-Joseph le 5 novembre 85.
Nous avions essayé de comprendre comment la philosophie morale s'est posée dans la source de notre philosophie occidentale. Alors je termine, et je crois que ce serait intéressant d'y réfléchir, ça je vous le demande vous, puisque quand vous faites la philosophie grecque, il y a là une réflexion qui est intéressante à faire au point de vue philosophique. Au point de vue, qu'est-ce que c'est que la philosophie morale? Qu'est-ce que c'est que l'éthique? Nous avions vu la naissance avec Socrate, le développement éthico-politique ou politique, politico-éthique chez Platon, le grand développement très particulier, c'est presque antithétique par rapport à Socrate, parce que Socrate voulait faire sortir du point de vue politique et donner la connaissance de soi. Et donc cette connaissance de soi comme étant primordiale. Puis nous avions vu la position d'Aristote qui découvre et met en très grande lumière le point de vue de la finalité en précisant cette première finalité, l'amitié, et la seconde finalité, la contemplation. Et donc Aristote montre que dans l'éthique, il peut y avoir des niveaux différents d'éthique. Et je crois que c'est ça qui est important à voir. Tandis que chez Platon, il n'y a pas de niveau différent d'éthique. Et chez Socrate non plus. Socrate, c'est la naissance de l'éthique. Connais-toi toi-même. Le niveau politique uniformise. C'est très curieux, ça. Aristote revient à une éthique, du moins, découvre une éthique personnelle. Et à ce point de vue-là, il rejoint Socrate. Et c'est pour ça qu'il dit qu'il est plus proche de Socrate que Platon, parce que Platon, en regardant le point de vue politique, s'écarte et s'éloigne de Socrate. Il uniformise et ce n'est plus le problème, connais-toi toi-même. Au point de vue politique, ce n'est pas ça. La propagande politique en disant connais-toi toi-même, ça n'aurait pas beaucoup de succès. Le point de vue de Platon, c'est au contraire le point de vue politique qui est premier, dépendant de la contemplation. Alors c'est là où quelque chose de très spécial, où il maintient quand même un contact avec Socrate, d'un point de vue de la contemplation qui est individuelle. Il ne peut pas y avoir une contemplation politique. Ça n'existe pas. Tandis qu'il y a une contemplation personnelle et individuelle. Sortir de la caverne, hein, quand il montre cela au point de vue politique et au cœur de la politique, je crois, il y a bien le mythe de la caverne. Le mythe de la caverne montre quand même cette exigence personnelle de l'éthique, au-delà du point de vue politique. Mais l'aspect typiquement moral est au niveau politique. Alors Aristote redécouvre la finalité. Après Aristote, on voit deux grands courants. Vous avez donc cinq modalités de la philosophie éthique en philosophie grecque. Deux grands courants, le courant Épicure, et le courant stoïcien. Et c'est très curieux, ces deux jumeaux, hein, qui sortent d'une certaine, qui sortent pas d'Aristote, qui sortent toujours, c'est toujours Socrate, hein. Socrate est toujours considéré comme la source de l'éthique en philosophie grecque. Les stoïciens ne cessent de parler de Socrate comme le modèle. C'est le grand modèle. L'archétype, c'est Socrate. Celui qui en face de la mort, n'a pas peur. Et vous savez, pour les stoïciens, c'est capital. C'est peut-être le sommet de la morale. Ce serait intéressant à bien préciser. Le sommet de la morale pour eux, c'est justement d'être en face de la mort, inflexible. Continuer son devoir. Socrate qui boit assidu. Étant donné, alors ce serait très intéressant parce que ce serait l'épreuve, vous voyez, l'épreuve dominante. Vous êtes quelqu'un qui recherche plus le devoir que votre propre intérêt lorsque vous êtes en face de la mort. C'est l'épreuve suprême. Et l'épreuve de la mort montre alors d'une façon très nette ce point de vue-là. Socrate prend la cellule, son devoir, il suit sa conscience. Et sa conscience est victorieuse de la mort. Et au fond, c'est la victoire de la mort, hein, par rapport à la mort, être victorieux de la mort. Et Socrate est victorieux de la mort parce que, en face de la mort, il continue son devoir. Et c'est la grande manière d'être victorieux de la mort. Donc, on voit l'influence de Socrate. Ce n'est plus pas Socrate. Hein. C'est un Socrate habillé par le stoïcisme. Et le Socrate habillé par le stoïcisme, je ne crois pas que c'est le Socrate à l'état pur. Mais Socrate sert d'archétype. Et dès qu'on sert d'archétype, on n'est plus à l'état pur. Hein. Parce qu'on devient une cause exemplaire. Et Socrate n'a jamais cherché d'être cause exemplaire. Déjà, Platon cherchait de mettre Socrate une cause exemplaire, hein, la fin du banquet. On voit bien, c'est l'exaltation de Socrate pour le montrer celui qui aime. C'est plus proche, je crois, de Socrate que les stoïciens qui montrent Socrate qui, en face de la mort, reste fidèle à ses voies, reste fidèle à son devoir. Je crois que Platon a quand même saisi quelque chose de plus profond en Socrate quand il saisit le point de vue de l'amour. Et Aristote a saisi de Socrate le point de vue plus humain de Socrate, le point de vue de l'amitié. Le lysis de Platon avait commencé à essayer de comprendre ça. Et puis Platon n'a pas su pousser jusque-là. C'est très curieux. Il y a un échec là. Je crois que le lysis représente comme un échec dans l'ordre de la philia. Il y a un échec chez Platon dans l'ordre de la philia. Platon n'a pas pu pousser jusqu'au bout la philia. C'est Aristote qui l'a reprise. Il a repris l'amitié, la philia, dans son éthique. Et les stoïciens suppriment la philia. Pas beaucoup d'amitié entre stoïciens. Soyez pas trop stoïques. Et trop stoïciens, il n'y a plus d'amitié. C'est chacun son devoir. Hein. Alors, chacun son devoir. Les cellules juxtaposées. Le voisin peut mourir, ça n'a pas d'importance, on fait son devoir, on n'en peut rien s'il meurt, que voulez-vous. On a fait son devoir jusqu'au bout. Et c'est quelque chose comme ça, les stoïciens, puisque le stoïcien, le principe dominant du stoïcien, ne t'inquiète que à l'égard de ce que tu peux faire quelque chose. Si tu ne peux rien faire, ne t'inquiète pas. Et donc, si ton ami meurt, tu n'en peux rien, continue ta route. Et même pleurer, c'est trop, c'est un regard en arrière, continue ta route. C'est farouche le stoïcisme, hein. C'est grand, c'est très grand. C'est un peu les mathématiques dans l'ordre moral, vous voyez, c'est un peu cette espèce de les possibles, on regarde dans les possibles, celui qui dépend de nous, et on ne regarde que celui-là. Et alors on se durcit vis-à-vis du reste. Donc, c'est le devoir exalté jusqu'au bout, le devoir stoïcien, le volontarisme du devoir, on pousse jusqu'au bout. Tandis qu'au contraire, Épicure, c'est juste l'inverse. C'est l'intelligence mise au service de la jouissance. Mais la grande jouissance, hein, pas la jouissance charnelle en premier lieu, ou la jouissance du bon chocolat, c'est pas ça du tout. C'est l'intelligence mise au service, donc un dilettantisme. Mais comme c'est curieux de voir ces cinq, je crois qu'il serait très intéressant de voir l'origine. Alors, ce qu'il y a de commun, c'est quand même toujours l'aspect de l'âme qui est fondement de la morale, la mise en lumière, sauf, et c'est peut-être une chose très importante à retenir, sauf chez les stoïciens. Les stoïciens nient la distinction de l'âme et du corps. Et Breyer, dans son histoire de la philosophie grecque, fait cette petite remarque qu'il ne faut pas oublier, en disant les stoïciens reviennent à la grande tradition grecque, étant donné que la distinction de l'âme et du corps ne vient pas de la tradition grecque, elle vient de l'Inde. ce sont les traditions religieuses qui distinguent l'âme et le corps. Or, on reconnaît aujourd'hui qu'il y a un apport de l'âme chez Platon. Et cette distinction de l'âme et du corps, chez Socrate aussi, cette distinction de l'âme et du corps provient des traditions religieuses de l'Inde. Il semble bien, on ne peut pas l'affirmer d'une façon absolue, mais ça semble bien que la distinction de l'âme et du corps provient des traditions religieuses et surtout des traditions religieuses de l'Inde. Tandis qu'au contraire, la philosophie grecque, dans ce qu'elle a de propre, n'accepte pas cette distinction. La réalité, c'est la réalité visible, celle qui est vue, c'est le cosmos, c'est le prima du cosmos, qui étouffe l'âme. Chez les stoïciens, la distinction de l'âme et du corps est rejetée. Alors ça, c'est très intéressant au point de vue éthique, vous voyez. Très intéressant parce que ça, c'est le problème du fondement de la morale. Sur quoi la morale va-t-elle se fonder? Et c'est le problème actuel, vous voyez. C'est le problème que nous voyons actuellement. Dans tout le courant de la phénoménologie, on n'accepte pas la distinction de l'âme et du corps. Merleau-Ponty n'aimait pas la distinction de l'âme et du corps. Et on voit que ça a pénétré même en théologie. Je me souviens, il y a quelques années, c'est pas si vieux que ça, mais c'est quand même... Maintenant, ça commence à compter, si vous voulez, il y a peut-être 30 ans. Je faisais une petite... C'était en Belgique. Je prêchais à des bénédictines. Et la mère supérée, la mère zélatrice du noviciat, elle me trouvait en me disant « Il faudra absolument que vous voyez telle religieuse, parce qu'elle fait des cours, suit des cours à Louvain. » Et elle revient en disant « La distinction de l'âme et du corps, ça, c'est une vieille distinction aristotélicienne et thomiste qui ne signifie rien du tout. » Alors moi, je ne sais pas quoi lui dire, vous comprenez, parce qu'elle est, ce sont ses professeurs de Louvain qui lui ont mis ça dans la tête. Alors j'ai vu cette religieuse, cette jeune religieuse, qui en effet, je lui ai demandé comment ça s'était passé. Elle m'a dit simplement un cours de religion, lui a dit, mais la distinction de l'âme et du corps, c'est complètement périmé. C'est la grande formule, c'est périmé. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est vrai ou pas vrai? Vous voyez, c'est toujours la question. C'est périmé, ça veut dire que ce n'est plus sur le marché. Vous n'avez plus le stand distinction de l'âme et du corps, donc ça n'existe plus. Non, c'est périmé. Alors, cette distinction est périmée, il faut comprendre tout au point de vue de la conscience, l'unité de l'homme. Je suis tout à fait d'accord que l'unité de l'homme est très importante et que la distinction de l'âme et du corps, mal comprise, peut mettre un dualisme, ce qui est très mauvais. Il n'y a pas de dualisme, il y a l'unité de l'homme. Mais la distinction de l'âme et du corps implique une analyse. C'est au niveau de l'analyse. Il faut bien analyser pour comprendre la complexité de l'homme. Et comprendre comment ce besoin de l'unité dans la complexité. Il ne s'agit pas d'être simpliste, de ne regarder que l'unité. Et il ne s'agit pas de tomber dans la relativité absolue et de regarder que la complexité. Il faut regarder à la fois la complexité et l'unité. Et c'est parce qu'on regarde la complexité et l'unité qu'on veut sauver l'homme dans toute sa complexité et dans tout son besoin d'unité. Et c'est pour sauver l'homme dans sa complexité et son unité qu'on pose la distinction de l'âme et du corps. Alors cette brave religieuse disait ça, alors elle, chrétienne, avait posé la question au professeur qui faisait un cours de religion chrétienne, donc au point de vue de la foi, alors elle avait posé, mais quand saint Paul nous dit que la mort est une conséquence du péché, qu'est-ce qu'il faut dire alors? On dit, vous savez, saint Paul, il a une telle hantise du péché qu'il voit tout à travers le péché, on ferait bien. Position. Puis deux, mais quand on dit que le Christ est mort sur la croix et qu'il est ressuscité, comment faut-il comprendre la résurrection alors, s'il n'y a pas de distinction entre l'âme et le corps? Oh, tout ça sera à reprendre. On a la réponse sonnée, donc on ne donne pas de réponse. On dit pas de distinction entre l'âme et le corps. C'est important de comprendre ça. Voyez, on revient à cette position du stoïcisme, c'est très curieux. Le primat de la volonté. Le primat de la volonté qui... La distinction de l'âme et du corps n'existe pas. Alors, sur quoi se fonde la morale? Et c'est vrai, sur quoi se fonde la morale? Quand on pose l'âme religieuse au point de départ, on ne pose pas la question du fondement de la morale. Et on dit simplement, l'âme religieuse, Aristote n'est pas posé la question du fondement de la morale. Ni Platon, ni Socrate. Connais-toi toi-même, c'est la connaissance de soi. donc la capacité que nous avons d'orienter notre vie. Voilà, point de vue moral. Le premier jour où vous avez pris une décision, ben, vous avez compris ce que c'était que la morale. Vous êtes orienté. Vous avez choisi. Retraite d'élection qui remet le point de vue moral en pleine lumière. Il s'agit de choisir. Et c'est très important, parce que c'est toute notre vie qui est remise dans le choix. C'est toute l'orientation de notre vie. Et nous sommes responsables de ce choix. Et nous sommes capables de choisir. Alors là, vraiment, on est en présence d'un problème moral, au sens très fort. On a cette capacité de choisir. Alors, le choix, c'est très important, le choix. La proairesis, hein, en grec. La proairesis. La proairesis, chez les stoïciens, ça existe. Et c'est la personne. La personne se noue dans le choix. Et pour eux, pas de distinction de l'âme et du corps. Chez les épicuriens, pas de distinction de l'âme et du corps non plus. C'est le point de vue de la jouissance. Pour eux, c'est très compréhensible. C'est uniquement la jouissance. Jouissons le plus qu'on peut, mais d'une façon intelligente. Il y a des jouissances matérielles qui suppriment les grandes jouissances spirituelles. Donc, dominons notre corps pour avoir des jouissances beaucoup plus profondes qui sont les jouissances spirituelles. Les jouissances charnelles, très bien, à leur niveau, mais elles doivent être dépassées. Épicure, c'est ça, c'est le point de vue de la jouissance avec ses différents niveaux. Quel est le fondement ? Il ne s'est jamais posé. Si de fait on a une morale hédoniste, on n'a pas besoin de se poser la question du fondement. Il suffit tout simplement de constater. Donc, c'est simple. Le sixième serait Plotin, où nous aurions une morale mystique. Plotin, c'est le philosophe mystique. C'est le philosophe mystique qui fait que tout s'achève dans le lien avec Dieu et dans le silence. Sigé, hein? Le silence. Le silence, c'est l'achèvement de toute la philosophie, et on peut dire qu'il y a quand même un certain télescopage de la morale pour la mystique. Ce qui existe assez facilement hein, chez les mystiques. La morale est complètement relativisée. Donc, on passerait à la mystique. Alors, vous voyez, la parenté, en comprenant bien, hein, parce que d'une certaine manière, Plotin et Épicure, c'est très très différent. Mais il y a quand même quelque chose de semblable, c'est qu'il y a un télescopage de la morale pour regarder d'un côté le point de vue de la propriété du bonheur qui est la joie, tandis que de l'autre côté, on regarde ce qu'est aussi la conséquence de la contemplation, le silence. C'est très curieux. Des deux côtés, on regarde les propriétés et on ne regarde plus le point de vue substantiel, point de vue substantiel de la contemplation. Mais on regarde les propriétés. Propriété de la contemplation qui donne la joie, propriété de la contemplation qui donne le silence. Et c'est vrai, c'est les deux grandes propriétés de la contemplation. Le repos silencieux et la joie. Et alors on a Plotin qui montre quelque chose d'assez particulier. Il est évident que le problème moral s'est reposé avec beaucoup de force dans notre Occident avec l'apport de la révélation chrétienne. Alors on a eu la naissance de ce qu'on a appelé la théologie morale. Et la théologie morale a absorbé l'attention d'une quantité, enfin des théologiens, des pères de l'Église et des théologiens. Ça, c'est évident. Je ne vais pas traiter cette question, mais ce serait la question de voir chez saint Thomas qu'est-ce que c'est que la morale. Saint Thomas ne s'est jamais posé le problème de la morale séparée de la théologie morale. Parce que saint Thomas, bien qu'il a commenté l'éthique d'Aristote, il l'a commenté d'une façon intelligente. Mais il l'a commenté comme toujours en vue de sa sagesse théologique. Thomas n'a pas repensé le problème philosophique pour lui-même. Il vivait en chrétienté. Donc ce n'était pas nécessaire. C'est toute la différence de la réflexion de saint Thomas et de notre réflexion. Vatican II nous demande d'avoir des fenêtres sur le monde, et quelquefois plus que des fenêtres, d'être complètement ouvert vis-à-vis du monde. C'est parce que le monde d'aujourd'hui dans lequel nous vivons n'est plus chrétien. Parce qu'il n'est plus chrétien, que nous sommes en présence d'une culture qui n'est plus immédiatement chrétienne, nous ne pouvons plus nous contenter uniquement de la théologie. Tandis que saint Thomas, lui, vivait en chrétienté. Alors, vivant en chrétienté, il n'avait pas besoin d'une philosophie autonome. Et ceci, c'est d'autant plus important qu'il s'agit d'éthique. Parce que je crois que c'est à l'égard de l'éthique qu'on peut parler d'une philosophie chrétienne. Parce qu'il y a une éthique chrétienne, au sens fort. Mais c'est toute la question de savoir, y a-t-il une métaphysique chrétienne ? Quand il s'agit de savoir s'il y a une mathématique chrétienne, tout le monde est d'accord. Il n'y a pas de mathématique chrétienne. Y a-t-il une métaphysique chrétienne? Je ne crois pas. Tandis qu'il y a une éthique chrétienne. Et on comprend très bien, si l'éthique regarde la finalité, la foi nous apporte immédiatement une nouvelle finalité, la béatitude. Saint Thomas commence sa théologie morale par le traité de la béatitude. C'est le traité de la béatitude qui commande toute sa théologie morale. Vous voyez, là il y a une parenté avec Aristote, mais comprenons que c'est très très différent. Aristote se pose la question du bonheur, et saint Thomas la béatitude. Aristote se pose la question, où est le bonheur humain? Est-ce que l'homme est capable de bonheur? Est-ce que l'animal est capable de bonheur? Non. L'homme seul est capable de bonheur. Qu'est-ce que c'est que le bonheur? Où se trouve le bonheur? Et c'est à partir de là qu'il va commencer sa réflexion éthique. C'est intéressant, du reste, de voir que c'est le bonheur qui va être le point de départ de sa réflexion éthique, morale. Saint Thomas, en théologien, commence par le point de vue de la béatitude. La béatitude, pour le chrétien, c'est que nous sommes faits pour voir Dieu. Toute notre vie chrétienne se termine dans la vision béatifique. Nous sommes en attente de la vision béatifique. Donc ça met tout de suite à la théologie morale une orientation très caractéristique d'être en attente de la vision béatifique. Et tout n'a d'intérêt que dans la mesure où ça nous rapproche de la vision béatifique. Vous voyez le problème de la mort, qui se situe très différemment pour Platon et pour Aristote. Pour Platon, Aristote, Socrate, qui se situe très différemment pour le stoïcien et l'épicurien et Plotin. C'est curieux, c'est toujours le problème de la mort qui est au fond au cœur de l'éthique. C'est très important, je crois, cela, de voir que le problème de la mort, c'est tout de suite ce qui donne la réaction typique de l'homme. Parce que l'homme peut réfléchir sur la mort, pas l'animal. Alors, où il est dominé par la mort, où il la domine. Et quand je prends pour saint Thomas cette théologie morale qui commence par le traité de la béatitude tout de suite nous met en présence que l'homme, le chrétien, en tant que chrétien, il est victorieux de la mort. Mais il faut passer par la mort pour entrer dans la béatitude. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il ne porte pas de fruit. C'est le passage. La mort apparaît comme un passage nécessaire pour la béatitude. Mais c'est un passage. Ce n'est plus du tout quelque chose qui arrête. Et à partir de son traité sur la béatitude, saint Thomas va montrer que si la béatitude est donnée gratuitement comme un don, comme la grâce, comme la foi, l'espérance et l'amour, cependant Dieu veut la coopération de l'homme. Et c'est en ce sens-là que la béatitude chrétienne ne supprime pas la morale. La morale, c'est l'homme qui va s'assumer dans sa complexité pour s'orienter vers sa béatitude. Et c'est pour ça qu'à l'intérieur même de la somme, dans la lumière de la béatitude, vous trouvez toute une analyse de l'acte humain. Et les meilleurs historiens de saint Thomas considèrent que c'est là où saint Thomas est le plus original. Et d'une certaine manière, voyez, d'une certaine manière, comment il assume là l'éthique d'Aristote. Mais Aristote n'a pas donné d'analyse de l'acte humain comme celle de saint Thomas. Saint Thomas étudie ce que c'est que le volontaire, puisque l'acte humain, c'est le volontaire. Il n'y a pas d'acte humain en dehors du volontaire. Alors il montre que le volontaire implique toujours le point de vue de l'intelligence, et qu'on doit étudier progressivement les différents moments de l'acte humain. Donc il y a une analyse de l'acte humain chez saint Thomas qui est très unique et qui est très importante. À côté du volontaire, il y aura l'involontaire. Il y a des actes qui ne sont pas volontaires de notre vie. Des actes instinctifs. L'exemple constant, hein, le fric, les barbames, hein, on voit très bien ce que c'est. On a tous des gestes instinctifs. Quand on a une barbe, quand on n'en a pas, fricaré barbame. Hein. Les résidus du poil qu'on continue de... Alors, vous voyez, les actes instinctifs. Hein. On se gratte l'oreille. Mais bon, c'est les actes instinctifs. Ce n'est pas un acte moral, se gratter l'oreille. Hein. On se gratte le nez. C'est pas un acte moral. Ça. C'est des actes instinctifs. Et puis alors, il y a des actes volontaires. Et des actes non volontaire. Alors, à côté de l'acte humain, il va étudier les passions. Le soubassement moral, c'est très intéressant. Les passions. Parce qu'il y a un soubassement, vous voyez ? Alors, on regarde, la béatitude, c'est la zone divine. Mais la béatitude réclame notre effort. Parce que Dieu ne veut pas nous donner uniquement gratuitement la béatitude. Il veut nous la donner comme une récompense. Dieu aurait pu faire autrement. Mais il veut que ce soit notre récompense, parce qu'il veut que nous soyons coopérants à la béatitude. Il veut que ce soit aussi le fruit de notre vie humaine. Il pourrait très bien la donner gratuitement en disant « Vous êtes tous des imbéciles, on va vous donner ça gratuitement parce que vous êtes incapables d'y tendre. » Non, il veut que nous tendions vers la béatitude comme des êtres intelligents et des êtres volontaires. Et donc qu'on acquiert la béatitude. En réalité, on ne l'acquiert jamais. Elle nous sera toujours donnée gratuitement, d'une façon ultime et dernière, mais il veut notre coopération. Alors, la coopération, c'est tout point de vue moral. La morale est vue comme l'homme devant coopérer à l'action gratuite de Dieu qui nous donne la béatitude. Voilà la morale de saint Thomas. Au point de vue théologique, c'est d'éveiller l'homme qui coopère à l'action de Dieu. Alors, l'homme qui coopère à l'action de Dieu, c'est l'homme éveillé à cette coopération dans l'acte volontaire. Cet acte volontaire chez l'homme naît à partir de tout ce que représente ce conditionnement humain des passions. Ce qu'on appellerait aujourd'hui le psychisme. C'est tellement difficile de voir ce que c'est que le psychisme. Saint Thomas ne parle pas du psychisme. Il analyse. Dès que vous analysez, vous ne parlez pas du psychisme, vous parlez des passions et de l'imaginaire. Là, vous analysez les passions et l'imaginaire. Et saint Thomas fait une étude des passions qui est très propre à saint Thomas. Il en touche une originalité de saint Thomas qui est extrêmement intéressante. L'originalité de saint Thomas du côté de l'analyse de l'acte humain, on n'a jamais analysé l'acte humain avec une telle profondeur que celle de saint Thomas. Là, c'est original. Et après saint Thomas, regardez, vous ne trouverez pas. Jamais. Alors aujourd'hui, dans la psychologie, on essaie d'analyser le psychisme de l'homme, mais on n'analyse pas le volontaire. Et nard, morale sans péché, on voit très bien ce que c'est. C'est une analyse du psychisme au niveau passionnel, au niveau affectif. Tandis que Saint-Thomas fait là une analyse extrêmement rigoureuse et très profonde de l'acte humain, c'est-à-dire de l'acte volontaire. Allez, pour beaucoup d'entre nous, c'est la manière de saisir le mieux Saint-Thomas, son originalité. C'est en regardant la prima secundae. Alors, il va étudier en fonction du volontaire et dans la lumière du volontaire. On est en théologie, donc c'est toujours la lumière qui vient d'en haut, et pas d'en bas. Tandis que dans la psychologie moderne, la lumière vient d'en bas. Ça ne peut pas être autrement. C'est le psychisme qu'on étudie. Tandis que là, la lumière vient d'en haut. Et la lumière, c'est la béatitude. Nous sommes faits pour voir Dieu. Nous le verrons tel qu'il est. Et nous serons semblables à lui, le voyant tel qu'il est. Et dans cette lumière, on étudie l'homme qui recherche cette béatitude par le point de vue moral. Donc si vous êtes des êtres qui voulez être moral, éthique, c'est en vue de la béatitude. C'est pas autrement. Toute notre éthique chrétienne repose sur la béatitude. Et dès que la béatitude n'est plus vue, notre éthique chrétienne n'a plus de sens. C'est pour cela, c'est pour être, c'est la béatitude. C'est pour ça que Saint-Thomas dit que la foi n'a pas d'autre signification que pour la béatitude. Hein. La nécessité de la foi. Vous n'êtes pas croyant pour comprendre ce que c'est que l'homme, pour comprendre les astres. Non, 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 non. Vous êtes croyant en vue de la béatitude. C'est pour la béatitude qu'on est croyant. Ça aussi, c'est très important, vous voyez, quand on parle à des incroyants. Ne regardons pas la foi en dehors de sa finalité. C'est pour la béatitude. Et ça, c'est tout point de vue moral, tout point de vue pratique. Une théologie qui veut être pratique et qui descend jusque-là. Alors, dans cette étude du volontaire, on étudie le conditionnement de l'homme. Et le conditionnement de l'homme, c'est cette attitude affective des passions. Et saint Thomas étudie là les 11 modalités de l'affectivité sensible, c'est-à-dire des passions. Et je crois que là aussi, il est très original. Et vous savez pourquoi saint Thomas a étudié les passions de façon si attentive ? C'est par rapport au Christ, par rapport à Jésus. Saint Thomas était en face d'attitudes stoïciennes qui disaient « pas de passion dans le Christ ». Le Christ devait être une personne qui était uniquement rationnelle et intelligente. Pas de passion dans le Christ, parce que la passion est mauvaise. Il est le Dieu de vieille attitude stoïcienne, la passion est mauvaise et manichéenne. La passion est mauvaise. Saint Thomas a recherché avec la plus grande attention, je vous l'ai déjà dit, ceux qui étudient les manuscrits de Saint Thomas, surtout les premiers manuscrits de Saint Thomas dans les commentaires des sentences, voient que c'est à propos de ces questions sur les passions que Saint Thomas a repris le plus, quelquefois 5 fois. Dans les manuscrits, on voit, il est dit, bif, il reprend, pour essayer de voir comment la passion est bonne, si elle est immédiatement assumée par le volontaire. Donc c'est toute l'affectivité de saint Thomas, toute l'affectivité du Christ que saint Thomas veut sauver. La tendresse, l'humilité, la douceur, le Christ est parfaitement homme. Alors, c'est les pro-passions, comme dira saint Thomas. C'est-à-dire des passions qui sont entièrement assumées par la volonté, mais qui restent encore plus fortes au point de vue affectivité. Alors, l'étude des 11 passions, c'est quand même un chef-d'œuvre, ça. L'étude des 11 passions de saint Thomas nous aide énormément à comprendre ce que c'est que saint Thomas. Vous voyez, quand on dit saint Thomas est un intellectuel, un rationaliste, ce qui est tout à fait faux. Saint Thomas a saisi exactement la place de l'affectivité et de l'amour. Il a montré que l'amour va plus loin que la connaissance. Quand il s'agit de saisir les réalités qui nous dépassent, c'est-à-dire Dieu et le prochain. Quand il s'agit de regarder les réalités qui sont inférieures à nous, il faut mieux l'intelligence. L'intelligence nous apporte quelque chose de plus grand. Elle domine tout ce monde sensible. Mais lorsqu'il s'agit d'atteindre une réalité qui est plus grande que nous, alors le point de vue de l'amour qui s'enracine dans l'affectivité sensible, dans l'affectivité passionnée, ne pouvait pas aimer sans que la passion soit présente. Alors vous voyez quelquefois des êtres qui veulent aimer sans passion. C'est terrible. Parce qu'ils n'aiment plus. Tout simplement. Il ne faut pas éteindre les passions, il faut les éduquer. Et les éduquer pour qu'elles soient plus grandes. Une passion n'est parfaitement passion que quand elle est dépassée. C'est très curieux ça. C'est tout ce domaine passionnel qui est extrêmement important et qui est très original à saint Thomas. C'est ce domaine particulier, les 11 passions. Et c'est à partir de là que saint Thomas va étudier ce que c'est que les vertus. C'est très intelligent cela. Parce que là, il nous montre bien qu'il n'a pas du tout une morale stoïcienne. Saint Thomas n'a pas une morale de la vertu. Saint Thomas n'a pas une morale du devoir. Il a une morale de la béatitude. C'est-à-dire une morale de la contemplation et de la vision béatifique. Et une morale de l'amitié, de l'amour. C'est le propre de la morale de saint Thomas. À ce point de vue-là, il y a quelque chose dans saint Thomas qui est très original que vous ne trouvez dans aucun théologien de l'époque de saint Thomas. Parce que, et aujourd'hui on insiste énormément là-dessus, parce que le stoïcisme avait pénétré en premier lieu chez les premiers théologiens. C'est pas étonnant, hein, le stoïcisme c'était la philosophie qu'on enseignait à Rome, Épictète. Épictète, en l'an 50, était à Rome. Faut pas l'oublier. Hein. Donc le climat philosophique de Rome, c'était Épictète. Donc c'était les stoïciens. Et il y a des choses très belles hein, dans le stoïcisme. Et dans le stoïcisme d'Épictète, c'est très très beau. Lisez les entretiens d'Épictète quand vous avez un peu de temps. Lisez les entretiens, livre de chevet merveilleux. Ça vous donnera des rêves merveilleux, des rêves stoïques. Merveilleux, ça c'est beau Épictète, c'est très grand l'esclave devenu philosophe, vous voyez, c'est quand même une conquête et étonnante. Mais c'est en même temps, ça peut être terrible. Ça peut être terrible. C'est Épictète qui le premier distingue l'homme intérieur de l'homme extérieur. C'est Épictète qui distingue en premier lieu la liberté véritable de l'homme intérieur. Vous conquérez votre liberté. La liberté, ça s'acquiert. Plus on est et on aime, plus on est libre. Et donc ça s'acquiert. La liberté extérieure, ah, celle-là, elle ne s'acquiert pas, parce qu'elle dépend du climat politique dans lequel on est. Mais il montre que cette liberté extérieure, la liberté d'expression, comme on dit aujourd'hui, mais elle est très secondaire. À quoi ça sert la liberté d'expression si on n'a pas de liberté intérieure? Très bien, laissez les jeunes s'exprimer, mais ils n'ont rien à dire. Alors ils s'exprimeront pour le plaisir de s'exprimer. C'est-à-dire ils font le plus de bruit possible pour montrer qu'ils s'expriment. Mais il n'y a rien à dire, il n'y a rien à communiquer. Alors, la liberté intérieure commande tout. C'est ça qu'il faut conquérir en premier lieu. Et ça se conquiert, ça c'est très 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 fort. Alors vous voyez, l'homme intérieur et l'homme extérieur, peut-être vous retrouvez dans saint Paul. Transposé, c'est pas la même chose, ne faisons pas de saint Paul un stoïcien, mais il y a un peu de stoïcisme dans saint Paul, hein, c'est sûr. Il y a des choses ici, c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui ont beaucoup de peine à entrer dans saint Paul, parce qu'il y a du stoïcisme. Et dans les premiers pères de l'Église, vous retrouvez des traces stoïciennes très nettes. C'est la première morale qui a été assumée par le christianisme. C'est très curieux, providentiel. Il y a des éléments de stoïcisme dans toute éducation, je crois. Mais il est purifié, je ne veux pas dire que la morale chrétienne chez les pères de l'Église est stoïcienne. Je veux dire que c'est la philosophie stoïcienne qu'ils ont assumée en premier lieu. Puis, ça a été le néoplatonisme. Comme dans le néoplatonisme, il n'y a pas de morale au sens strict. Il a fallu la redécouverte d'Aristote pour redécouvrir une morale du bonheur. Et je crois que c'est par là que saint Thomas est revenu à Aristote. c'est à cause de l'éthique. Pour découvrir le point de vue que la passion n'est pas vraie. Que l'amitié est une certaine finalité. Et donc, redécouvrir l'homme dans toutes ses dimensions. Alors, cette morale de saint Thomas, telle qu'elle est dans saint Thomas, très très vite, elle a été transformée avec Occam. C'est devenu la morale des vertus. C'est très curieux. Et vous retrouvez ça, alors, on peut dire, avec Suarez, la morale des vertus, c'est la morale de la volonté. Vous retrouvez le stoïcisme avec Suarez. Alors que chez saint Thomas, le stoïcisme est complètement dépassé. Le stoïcisme est complètement dépassé par ce point de vue de la béatitude. Et on comprend que c'est très très difficile, hein. C'est plus facile d'être stoïcien. C'est plus facile d'éduquer en étant stoïcien. Parce que c'est le primat du volontaire. C'est le volontarisme. Le volontarisme qu'on voit dans tout un aspect chrétien et qui a pris une très grande force avec l'éducation au XVIIe siècle. La vertu et le volontarisme. Il s'agit de faire des hommes vertueux. Pour beaucoup, l'éducation, c'est ça. Faire des hommes vertueux, ce n'est pas le but de l'éducation. Le but de l'éducation, c'est de faire des hommes qui sont capables d'aimer. Et qui sont capables d'aller jusqu'au bout dans l'amour. C'est-à-dire, aimer Dieu dans la contemplation, et aimer le prochain. Donc, un dépassement complet du stoïcisme. Et alors, on retombe dans le stoïcisme, on ne peut pas nier la morale du devoir. Et au fond, c'est cette morale du devoir qui est devenue le prototype de la morale chrétienne. On a tous connu ce genre. Pour vous, vos grands-pères, vos pères qui étaient de la morale chrétienne, on sent très bien. Alors, il y a eu une réaction violente. Il faut comprendre ce qui se passe. Hein. La réaction la plus violente contre la morale du devoir, c'est Nietzsche. Il ne faut pas l'oublier. Nietzsche tire avec des boulets rouges contre Kant. Il y en a deux qui sont anti-kantiens. Hegel et Nietzsche. C'est pour ça qu'après Hegel et après Nietzsche, je crois qu'on ne peut plus être kantien. C'est la mort de Kant. Mais des boulets rouges au plan de l'intelligence, Hegel, au plan moral, Nietzsche. Nietzsche ne peut pas supporter Kant. Pourquoi ne peut-il pas supporter Kant, Nietzsche? Parce que Kant a fait un blocage entre la conscience du devoir et la conscience religieuse. C'est l'impératif catégorique qui, pour lui, est le lien avec Dieu. Donc la conscience devient quelque chose de religieux. Et elle est reliée avec Dieu. Alors, ça noue l'homme. Vous voyez, c'est l'ontologisme au niveau pratique. Vous ne définissez plus l'homme par lui-même, vous le définissez par Dieu. Et donc, aller contre votre conscience, c'est aller contre Dieu. Aller contre votre conscience, c'est-à-dire vous mettre à critiquer certains points de vue, à essayer de réfléchir. C'est ce blocage que Nietzsche ne peut pas accepter. Alors, il va contre cela pour redécouvrir une nouvelle morale. Tout l'effort de Nietzsche, c'est redécouvrir une nouvelle morale. Et redécouvrir une nouvelle morale à partir de la créativité. Alors, on reviendra là-dessus quelques mots, je ne vais pas insister trop, mais ce serait très intéressant de faire une topique, comme on l'a fait pour la philosophie grecque, par rapport à la philosophie contemporaine. La philosophie contemporaine n'est pas tournée en premier lieu vers le problème moral, à part Gabriel Marcel. Gabriel Marcel, il est tourné vers le point de vue moral, ça c'est évident, toute sa philosophie est à ce niveau. Mais à part Gabriel Marcel, on ne peut pas dire que c'est ce qui inspire toute la philosophie contemporaine. C'est plutôt amoral. Hein. C'est plutôt ça. Mais cependant, il y a des traces de philosophie morale dans Sartre. On ne peut pas le nier. Dans Marx, dans Camus, à des niveaux très différents. Alors ce serait très intéressant de redécouvrir à l'intérieur de cette philosophie contemporaine les différentes positions morales qui existent. Parce qu'il y a une très grande diversité. La morale telle qu'elle existe dans Camus n'est pas du tout la même que dans Sartre. La morale telle que vous la redécouvrez dans le point de vue marxiste, essayer de faire le père Cottier. Hein. Très délicat. Y a-t-il encore une morale ? Qu'est-ce qu'il y a comme élément moral ? C'est très différent que dans Gabriel Marcel. Alors c'est intéressant d'essayer de saisir ces divers types d'humanisme moral dans la philosophie contemporaine. Je reviendrai un instant la fois prochaine là-dessus.